le magazine des Nations Unies.
Bonjour, voici les principaux titres de cette édition du magazine des Nations Unies. Une lettre ouverte au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la société civile du Nord Kivu fustige la duplicité de certains partenaires de la RDC au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, aussi RGL. Elle se dit déçue par ce qu'elle considère comme étant l'indifférence du Conseil de sécurité face au comportement belliqueux du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Vous suivrez le point focal de cette société civile, Étienne Kambala. Nous irons à Walindoubindi, dans le territoire de Djougou en Ituri, où plus de 20 000 déplacés hébergés dans des familles d'accueil ont bénéficié d'une assistance en soins médicaux et en articles de ménage. C'est grâce à un appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. C'est dans le cadre d'un projet réalisé par le programme de soins de santé primaire. La RDC, passage obligé de l'intégration africaine, ce qui justifie son appartenance aujourd'hui à quatre communautés régionales dont la SADC et la communauté économique des États de l'Afrique australe dont le 42e sommet se tiendra le mois prochain à Kinshasa. Dans ce magazine, nous irons au ministère de la coopération régionale pour nous entretenir avec M. Laurent Mbuyamba Madimba, directeur de la coopération multilatérale africaine. Ce sont là les principaux éléments de nouvelles de ce dimanche 10 juillet 2022.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour une fois encore et bonne journée dominicale. Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'ONU, la société civile du Nord Kivu fustige le double jeu d'enfants entre certains partenaires de la RDC au sein de la CRGL dans la problématique du processus de paix de Nairobi. Elle se dit inquiète et déplore surtout l'indifférence, selon elle, du Conseil de sécurité des Nations Unies face au comportement agressif du Rwanda via le M23. Point focal de la société civile du Nord Kivu, Étienne Kambala l'a dit de vive voix dans cet extrait recueilli par Sifa Maguru.
La conjonction des efforts entre le Rwanda et l'Ouganda pour prendre Bunagana et le confier au M23. Il y a des inquiétudes et par rapport à ce qui se fait à Nairobi. Et nous avons dit que les partenaires qui sont en face de notre chef d'État ne sont pas des partenaires sérieux sur qui on peut compter pour ramener la paix. Jusque-là, nous n'avons jamais vu les conseils de sécurité taper sur la table et responsabiliser le Rwanda. C'est clair, tout le monde cette fois-ci a vu que le M23 c'est un produit fabriqué par le Rwanda. Mais est-ce que vous avez entendu les conseils de sécurité s'est prononcé sur cette question? Non. Est-ce que le Conseil de sécurité s'est prononcé par rapport aux FNL? Non. Est-ce qu'on s'est prononcé par rapport aux FDLR ou bien aux Mbororo? Non. Nous avons dit, il y a de part des responsabilités aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut qu'ils agissent et que l'Union africaine ne dorlote pas les États qui entretiennent l'insécurité et utilisent nos entités comme des marchés, des ventes, d'expérimentation, des actions belliqueuses.
Parmi les recommandations contenues dans son courrier adressé au patron de l'ONU, la société civile du Nord Kivu demande des actions concrètes de la part du Conseil de sécurité pour obtenir le départ du territoire congolais de groupes armés étrangers et restaurer ainsi la paix sur tout le territoire national. Plus de 20 000 déplacés hébergés dans des familles d'accueil ont bénéficié de soins gratuits pendant un mois, en plus de quelques articles ménagers. Nous sommes dans les secteurs de Walindoubindi, territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Une assistance obtenue dans le cadre du projet appelé Réponse rapide, réalisé par le programme de soins de santé primaire grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. D'autres détails dans cet élément d'Isaac Rimoyope.
L'ONG Programme de soins de santé primaire PPCSP a remis un lot important de médicaments aux aires de santé de Bouba et de Drekpaba dans le secteur de Walindoubindi dans le territoire de Djougou, ce qui a permis la prise en charge médicale en avril et mai dernier de plus de 20 000 personnes, surtout des enfants qui souffraient de malnutrition, des diarrhées, des paludismes et des problèmes respiratoires. Cette intervention a permis de réduire les taux de mortalité dans cette zone, affirme les chargés de communication de l'ONG PPCSP. Trésor Muyumba ajoute que plus de 5 000 autres déplacés de cette entité ont reçu des articles ménagers composés de bâches, des seaux, des casseroles, des gobelets, ainsi que des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation. L'objectif de cette action était d'améliorer les conditions de vie de ces déplacés, dont les biens ont été pillés ou incendiés par des hommes armés dans leur village d'origine. Cependant, ces déplacés sollicitent une assistance en vivres. Ils demandent à d'autres partenaires du gouvernement de leur venir en aide. Signalons que de nombreux déplacés installés dans des familles d'accueil n'ont jamais reçu une assistance en vivres ou en médicaments dans les territoires de Djougou. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
L'inscription de la rumba congolaise comme élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et l'accompagnement dans le processus de planification et de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire figurent parmi les résultats palpables de l'action de l'UNESCO en RDC au cours de l'année 2021. C'est ce qu'indique le rapport succinct annuel que cette agence a présenté mercredi 6 juillet dernier ici à Kinshasa. Jeff Opela, reportage.
C'est le chef de bureau et représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Monsieur Isaïe Barreto da Rosa, qui a lancé l'ouverture de ces rapports qui a rencontré tant soit peu leur satisfaction quant aux résultats escomptés en cette période frappée par la pandémie Covid-19. L'objectif est de rendre compte du travail accompli par les bureaux de l'UNESCO à Kinshasa en 2021. Un rapport qui illustre les dynamismes de membres de l'équipe dans la concrétisation de plusieurs activités, projets et programmes marquant l'appui technique de tous les secteurs et stratégies de développement en RDC. Soutenir les initiatives gouvernementales du secteur de l'éducation, de la science et de la culture demeure leur mission. À cet effet, le représentant résident de cette agence onusienne en République démocratique du Congo, Ozias Barreto da Rosa, s'est exprimé.
Mesdames et messieurs, dans le contexte de l'année 2021, profondément marqué par la pandémie de la Covid-19, le bureau de l'UNESCO à Kinshasa et l'ensemble de l'équipe du bureau a travaillé avec détermination et ce travail de l'équipe du bureau a permis la consolidation des résultats obtenus dans tous les secteurs du domaine de l'UNESCO, notamment l'éducation, les sciences exactes et naturelles, la culture et aussi la communication et l'information.
Face au défi du futur de l'éducation, de la science et de la culture, l'approche de l'UNESCO s'est articulée sur le principe d'accompagnement technique de priorité.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC est le passage obligé de l'intégration africaine par sa position géostratégique et son potentiel économique. C'est ce qui justifie son adhésion à plusieurs communautés régionales, à l'instar notamment de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC en sigle. Kinshasa abritera d'ailleurs le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté dans les tout prochains jours, en août 2022. En prévision de ce rendez-vous et en marge d'un atelier de formation des médias et des experts en intégration régionale, sur les avantages de l'agenda de la SADC pour la RDC, le magazine des Nations Unies s'est entretenu avec le directeur de la coopération multirégionale africaine, Laurent Bouyamba Madimba, répond ici aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Directeur Laurent Bouyamba, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le directeur, quels sont les grands objectifs que s'est fixé la SADC à laquelle appartient la RDC?
Pour parler des objectifs de la SADC, ils sont inscrits au traité de la SADC. Ils consistent en la promotion du développement, de la croissance économique, de la paix, de la sécurité, ainsi que l'assistance aux personnes défavorisées. Donc voilà, de manière un peu ramassée, les objectifs que la SADC s'est assignés.
Alors, directeur, par rapport à ces objectifs, quels sont les avantages que la RDC a déjà tirés et pourra encore tirer?
Les avantages sont là. Quand vous vous référez au cadre stratégique de la SADC, précisément le plan stratégique 2020-2030, ce cadre-là est constitué de différents piliers de la SADC. Le premier pilier, c'est ce que la SADC appelle fondation. La fondation politique, paix et sécurité. Rien que pour ces piliers-là, la RDC a déjà bénéficié énormément de la SADC. Vous savez que dans notre pays, il y a la guerre qui s'est éclatée le 2 août 1998. À la suite de cette guerre, notre pays a failli connaître une désintégration totale. Alors, n'eût été l'intervention de la SADC, on parlerait un autre langage aujourd'hui. Donc, c'est le premier avantage que la RDC a tiré de sa participation à la SADC. Mais aussi, toujours dans le même domaine, vous êtes sans ignorer qu'en 2013, nous avons connu encore une violence armée avec ce que nous appelons aujourd'hui les M23. Et c'est grâce toujours à la SADC aussi que les M23 ont été neutralisés en 2013, cette fois-là grâce aux troupes de la SADC constituées de la Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud. Mais pour ce qui est de 1998, c'était la Namibie, l'Angola ainsi que le Zimbabwe. Donc je pense qu'il faut d'abord promouvoir la paix dans cet espace-là pour penser au développement. Mais déjà, pour ce qui est du développement, la RDC possède ce que nous appelons les avantages comparatifs. Ces avantages comparatifs, c'est lié à sa situation naturelle. Nous sommes un scandale géologique, nous avons des ressources naturelles immenses et notre position centrale en Afrique ainsi que la dimension de notre pays comme sous-continent fait de nous un passage obligé de tous les corridors de transport. Donc il faut exploiter tout cela, il faut construire des routes, développer, disons, les infrastructures, notamment des transports, de l'énergie, des technologies, pour tirer donc bénéfice de notre participation à l'intégration sur le plan économique.
Alors, en dehors de la SADC, la RDC est également membre d'autres organisations régionales comme la CEAC, le COMESA, et dernièrement la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Est-ce un avantage d'appartenir à autant de communautés d'intégration ou alors une dispersion des énergies comme certains sont tentés de le croire?
C'est vrai, il y a dispersion d'énergie parce que cette multiple appartenance fait à ce qu'il y ait duplication même des programmes de manière à ce qu'il y a suffisamment de réunions, si bien que pour y participer parfois ça pose problème, dispersion aussi financière, mais c'est une situation qu'impose naturellement notre position géographique telle que je viens de le dire. Donc vous savez que la RDC est constituée pratiquement de trois marchés. Il y a le marché de l'Ouest qui s'adonne à une mouvance commerciale avec la partie outre-Atlantique, ce qui justifie pratiquement notre participation à la CEAC. Et il y a la partie de l'Afrique australe qui prend pratiquement le Katanga et le Grand Kasaï, et qui est adonné à la mouvance commerciale avec la partie de l'Afrique australe, donc ce qui justifie notre appartenance à la SADC, mais il y a la mouvance de l'Est qui justifie donc notre appartenance au COMESA. Donc c'est une situation imposée, donc tourner le dos à l'une ou l'autre partie consacrerait pratiquement la désintégration de notre pays, l'abandon de cette partie-là. Donc c'est naturel, nous devons vraiment faire avec cette multiple appartenance. C'est question tout simplement de nous organiser efficacement à l'interne.
Donc, dans la perspective de l'intégration économique de l'Afrique, la RDC, c'est pratiquement le passage obligé du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Oui, effectivement. Vous savez que le Congo, on a dit, il est de toute l'Afrique. L'Afrique du nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Voyez le programme du Népal sur la transafricaine, les corridors de transport. Et tous ces corridors-là passent impérativement par la RDC, ou doivent passer par la RDC.
Alors, on peut dire que le projet pont-rail entre Kinshasa et Brazzaville se justifie dans cette perspective.
Absolument. Le pont-route-rail, c'est pratiquement un projet du NEPAD, nouveau partenariat économique pour l'Afrique. Donc, ça cadre avec le projet d'intégration africaine. Bon, il y a quand même certaines inquiétudes au niveau du Congo central où on est en train de penser que avec l'érection de ces ponts routes rails, l'activité économique concernant le port de Matadi sera en moule. C'est ce qui justifie la construction d'un port en eau profonde au niveau des bananes pour résoudre ces problèmes-là. Mais ces ponts-là, rien à faire entre Kinshasa et Brazzaville. doit être érigé.
Alors revenons aux organisations régionales, SADEC, COMESA et autres. On l'a dit tout à l'heure dans les travaux en atelier, il y a beaucoup de protocoles au sein de toutes ces organisations que la RDC n'a pas encore ratifié, notamment le protocole portant sur le libre-échange, donc le protocole commercial. Pourquoi la RDC traîne à ratifier ce genre de protocole important?
Ce qu'il faut d'abord retenir est que la RDC est venue fort tard à la SADEC, ce qui justifie d'abord ces retards-là. Mais je peux vous informer que le gouvernement de la République a déjà pris l'option de pouvoir signer et accélérer la ratification du protocole commercial pour promouvoir donc la zone de libre-échange au sein de la communauté.
La RDC appartient à plusieurs organisations d'intégration régionale, de par sa position géostratégique, qu'est-ce qu'elle doit faire pour tirer le maximum de profits par sa présence au sein de toutes ces organisations?
D'abord, l'intégration régionale, c'est un défi posé par la mondialisation. La mondialisation, c'est une compétition en quelque sorte, et dans une compétition, il y a des gagnants et des perdants. Nos économies africaines sont tellement petites et fragiles, et ces économies seules ne peuvent pas être compétitive sur le marché mondial dominé par les gros blocs commerciaux. Donc on entre dans l'intégration avec les soucis d'accroître la compétitivité en bloc pour faire face au marché mondial qui est pratiquement le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc la RDC, pour profiter de l'intégration régionale, doit d'abord développer les infrastructures de transport, routes, rails, ports, aéroports, des infrastructures de l'énergie, parce que l'investissement en ce qui concerne le développement de l'industrie est tributaire de l'énergie électrique. Troisièmement, les infrastructures de technologie, les technologies de l'information. Puisque celui qui a l'information possède l'avantage comparatif. C'est ce qui a justifié d'abord la tenue de cet atelier de formation et d'orientation en faveur des hommes des médias que vous êtes. Pendant que nous sommes dans l'intégration régionale, il faut penser aussi à l'intégration nationale par le développement, par exemple, des routes. Puisque c'est le premier objectif de l'intégration, c'est l'intégration physique, l'intégration des territoires. C'est ici les lieux de saluer le projet de 145 territoires du chef de l'État, puisque ce projet-là vise à connecter tous les territoires par un réseau routier. Donc je pense que c'est à ce prix-là que la RDC peut tirer efficacement bénéfice de sa participation à l'intégration africaine.
Directeur Laurent Mbuyamba Madimba, merci.
Je vous en prie.
En plus bref, 123 agents de la police de Bukavu destinés à la sécurisation des sites miniers et à la lutte contre le trafic illicite des minerais dans la province de Sud-Kivu ont été formés avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. La clôture de cette formation a eu lieu le lundi 27 juin 2022. Une cérémonie similaire a été organisée à Goma le 29 juin où 122 autres policiers étaient aussi en cours de formation. Au total, 245 policiers ont donc bénéficié des sessions de formation dans le cadre de la deuxième phase du projet de police des mines dans les deux Kivu. Ce projet est financé par les États-Unis d'Amérique à travers le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois du département d'État. Restons encore au Sud-Kivu. La MONUSCO, à travers son service anti-mine UNMAS, a remis à la police et à l'armée congolaise deux bureaux aménagés dotés de coffres forts ainsi que des armureries mobiles pouvant contenir chacune jusqu'à 400 armes et des centaines de munitions de petit calibre. Ces installations visent à assurer une sécurité physique aux usagers eux-mêmes, mais aussi une bonne conservation des armes. Bouclons cette page par Gina en Ituri. L'équipe d'engagement féminin des Castres Bleus népalais de la MONUSCO a organisé une rencontre avec des femmes de cette localité itourienne située à 40 km au nord-est de Bunia. C'était le 29 juin 2022. L'objectif de la rencontre était de sensibiliser ces femmes de Jina à s'impliquer dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de la situation sécuritaire dans leur home milieu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies prend comme invité la directrice OPS, force de la MONUSCO, le colonel Maureen Wellwood. Dans un entretien accordé à Radio Capé cette semaine, cette responsable militaire de la mission onusienne parle de la présence des casques bleus sur le théâtre des affrontements, ainsi que du soutien que la force de la MONUSCO apporte aux FARDC et de la protection des civils pendant les conflits. Maureen Wellwood répond aux questions de Sifa Maguru.
Colonel Maureen, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous éclairer la population sur ce qui se passe dans la zone des affrontements en territoire des Rutshuru?
Certainement, les FRDC sont mieux positionnés pour exprimer et partager qu'est-ce qu'eux, ils font comme opération. Du côté de la force de la MONUSCO, ce qu'on fait, c'est qu'on occupe certaines parties du terrain pour appuyer la défense qui se fait par les FRDC. On appuie les FRDC également au niveau de en logistique, en échange de renseignements, en appui-feu, appui d'aviation et aussi quelques équipements au niveau défensif. Donc, on est là premièrement pour faire une protection de la population par rapport aux affrontements qui se font et en même temps offrant l'appui aux FRDC pour rendre leur défense encore plus efficace justement pour la population civile.
C'est cette protection de la population qui n'est pas bien comprise par l'opinion. Quelles sont les actions que mène la MONUSCO pour protéger les populations locales?
La force de la MONUSCO a presque 1200 soldats de déployés dans la région de Rutshuru, dans plusieurs endroits qui permettent d'effectuer des opérations à grandeur du terrain là où la situation de sécurité le permet. Parmi ces activités-là, dans les derniers mois, on a fait jusqu'à 1000 patrouilles de jour et de nuit. On fait également la protection et la surveillance sur la route nationale 2 pour assurer que cette voie d'accès-là reste accessible à la population, autant au niveau de la commerce et du transport régulier que le déplacement des personnes qui fuient la région, personnes déplacées là, qui cherchent un endroit plus sécuritaire pour passer le temps nécessaire avant que la sécurité soit rétablie.
En dehors de Rutshuru, parlez-nous aussi de la situation dans la région des Beni et de l'Ituri. Qu'est-ce que la MONUSCO apporte là-bas comme appui?
Spécifiquement à la région de Beni, on est conscient qu'il y a eu plusieurs instances récentes au niveau de conflits, d'infractions au niveau de la loi humanitaire. Les troupes de la MONUSCO qui sont dans la région de Beni sont déjà déployées tout récemment sur des patrouilles de longue durée dans les régions comme Bouimanyana et certains autres endroits autour de la région de Mavivi pour justement faire une présence, rencontrer la population civile, dissuader les différents groupes armés qui sont dans la région. En Ituri, actuellement, on a un déploiement relativement stable. Au cours des derniers mois, on a eu des opérations d'envergure en Ituri, dans le coin de Bali et de Saki, qui ont fait en sorte que on a contré certains actes du Codeco de ce secteur. Et ces actions-là continuent, spécifiquement en ciblant les groupes armés qui sont actifs dans la région des Ituri.
Vous êtes directrice des opérations. Quels sont les défis auxquels la force fait face actuellement par rapport au contexte du Nord Kivu de l'Ituri dans le cadre de la protection des civils?
Les difficultés qu'on rencontre, il y en a une peut-être que je soulèverai, c'est la coopération de la population. La sécurité du Congo, la première responsabilité, ça revient aux Congolais. Population locale et générale, tous les citoyens, mais aussi au niveau des forces de la sécurité. Notre rôle au niveau de la MONUSCO, c'est d'appuyer. On ne peut pas réaliser cet objectif-là si on n'a pas la collaboration entière de la population.
Colonel Maureen, merci beaucoup.
Shabunda est l'un des plus grands territoires du Sud Kivu, mais aussi un des plus enclavés. Les femmes qui y vivent sont non seulement confrontées à des coutumes rétrogrades, mais elles sont surtout affectées par la pauvreté ambiante dans la région, malgré le fait que ce soit une zone minière. Pour aider les femmes à sortir de cette situation, les Nations Unies ont mis en place un projet appelé Projet WASH, Women of Shabunda. Quelles peuvent être les retombées d'un tel projet? Jean Kassami était dans la contrée, suivant son dossier.
Le projet WASH est financé par le bureau du secrétaire général des Nations Unies pour une durée de 2 ans Le projet qui devait aller de septembre 2019 à novembre 2021 a pris du retard. Ainsi, la semaine dernière, le projet a été mis en place. L'OIM a ainsi appuyé des coopératives minières des femmes de Kigulube et d'Enzovu dans les territoires. Ces femmes ont bénéficié des kits individuels et des titres pour leur permettre de faire leur travail en toute sécurité dans les carrés miniers. Nous avons recueilli les réactions de quelques bénéficiaires.
Toutes les mamans de la coopérative, nous sommes très contentes de recevoir les matériels pour bien faire le travail, puisqu'on avait des difficultés, mais pour le moment, on va démarrer très bien.
Mais si les femmes légales sont plus ou moins écrasées par le poids de la coutume, aujourd'hui, elles veulent que certaines coutumes qui ne favorisent pas leur épanouissement soient bannies. C'est le point sur lequel a travaillé le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours d'un atelier organisé à Kigulube, lequel a regroupé les autorités locales, y compris les gardiens des coutumes légales. Toutes ces questions ont été discutées. D'autres coutumes qui promeuvent la femme légale, mais qui sont jetées aux oubliettes, nécessitent une restauration, disent les participants. Le projet OCH ne s'arrête pas que là. En montant une radio communautaire pour les femmes de Shabunda, l'UNESCO leur donne un vrai outil de communication et de sensibilisation. La radio est installée dans la case de la femme qui fait partie de ce projet et qui sera un lieu de rencontre pour les femmes. Richard Massipa, coordonnateur du projet, nous parle de cette radio.
La radio des femmes de Shabunda est même à 88.0. Et ce qui nous intéresse, c'est que la radio vraiment couvre une large zone, allant jusqu'à plus de 250 km 300.
En plus de ces piliers déjà évoqués si haut, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a mis aussi en place un système de crédit rotatif à travers son appui aux associations villageoises d'épargne avec. Ce qui facilite l'autonomisation socio-économique des femmes de Kigulube et Enzovu.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Comment se présente la situation des déplacés sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et dans quelles conditions en vivent-ils? Question posée à Goma au chef de bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies au Tchad, Joseph Inganji, par Denise Lukeso. Suivez la réponse du haut fonctionnaire international.
La situation des déplacés au Nord Kivu est préoccupante. Nous avons un grand nombre de personnes déplacées. Selon notre statistique, nous avons plus de 1,6 million de personnes déplacées. Les chiffres aussi continuent à augmenter. Il faut noter que les combats qui continuent maintenant dans le territoire de Rutshuru a augmenté le nombre de personnes déplacées dans la province. Depuis mars cette année jusqu'à aujourd'hui, nous avons autour de 170 000 personnes déplacées. Et cette personne déplacée vivre dans conditions très préoccupantes. Dans les églises, nous-mêmes à Kiwanja, nous avons aussi un autre grand nombre important de personnes déplacées à Kanyaruchinya, dans les écoles, dans les églises, où ils ont besoin de toute l'assistance multisectorielle.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Dans vos agendas, retenez pour la semaine qui commence un rendez-vous sur la liste des journées internationales. Le 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Et en rapport avec cet événement, sachez que cette année, la planète Terre atteindra 8 milliards de personnes, soit 1 milliard de plus en 10 ans de 2012 à 2022. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiokapi.net, Radio Kapi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Charlie Louyeye qui en a assuré la coordination technique. Et moi, c'est Babel Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester à l'écoute de la Radio de la Paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, eh bien, elle vous fait rendez-vous pour dimanche prochain.